Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Priam est venu supplier Achille de lui rendre le corps de son fils, Hector. Celui-ci, touché par la démarche, a mêlé ses larmes à celles de Priam. Il a accepté, au grand soulagement d'Ulysse, comme de Zeus. Achille est reparti au combat. Mais Paris, aidé par Apollon, lui a décoché une flèche au talon, son seul point faible, et il l'a tué. Ulysse a réussi à sortir son corps du champ de bataille. Il a ramené le corps d'Achille au camp des Grecs, et Briseis est au désespoir. Ulysse, quant à lui, vient d'hériter du magnifique bouclier d'Achille. Ce jour-là, à l'heure où Hélios termine sa course, le cheval de bois géant se trouve enveloppé de cordes. Et voilà les Troyens qui saisissent les cordes, qui tirent pour faire bouger la statue. Oh, comme elle est lourde! Pourtant, elle semble bien construite en bois de sapin. Oh, c'est si lourd! Bougonne un homme en sueur. On se demande quel trésor se cache dans son ventre. Pourquoi Priam veut-il absolument faire entrer ce cheval dans la cité? Un autre s'éponge le front. Il explique. Quand nous l'avons approché tout à l'heure, nous avons bien vu que c'était une offrande des Grecs à Athéna. Sur une inscription, on peut lire « En remerciement à la déesse, par avance, pour nous avoir permis de rentrer sains et saufs chez nous. » Et tous leurs bateaux ont disparu. Ils ont bel et bien décampé. Cette offrande à Athéna protégera notre Troie plus sûrement que n'importe quel talisman. Les hommes tirent tant et tant que le lourd cheval de bois finit tout doucement par bouger. Pas à pas, le cheval conçu par les Grecs approche de la porte de la cité. « Brûlez-le ! Ne le laissez pas entrer !» hurle Cassandre comme une démente. Ses paroles s'envolent vers la mer sans qu'aucune oreille ne leur prête attention. Le soleil est complètement couché lorsque les grandes portes se referment sur le cheval. Il est emporté jusqu'au cœur de la ville. Les Troyens accourent, curieux, pour l'observer. Les enfants lui caressent les flancs. Les plus hardis tentent même de se hisser sur son dos, vite chassés par les soldats troyens qui le gardent. Une atmosphère de paix flotte sur la ville. Près de 10 ans qu'on n'a pas respiré aussi bien à l'intérieur de ses murailles. Priam ordonne qu'on organise une grande fête pour célébrer la victoire. Le parfum des orangers et des jasmins fait tourner la tête des Troyens autant que le vin qui coule à flot. « Inutile de veiller auprès de lui !» décrète Priam. « Il ne va pas partir au galop. Allez, allez vous amuser, mes braves !» Et c'est le cœur léger que chacun part festoyer. Tard dans la nuit, les Troyens s'endorment, laissant le mystérieux cheval seul sous les étoiles. C'est alors que du ventre du cheval surgit une échelle de corde. Elle descend le long de l'animal. Aussitôt, un homme, puis un autre s'y agrippe. 23 silhouettes se glissent le long de cette échelle. Anges de la mort, ils se faufilent dans les ruelles jusqu'aux portes de la ville. Là aussi, des soldats ronflent, épuisés par la fête. Sans un bruit, les intrus neutralisent les sentinelles endormies, déverrouillent les portes, puis allument rapidement un feu. C'est le signal. La flotte des guerriers grecs, qui avait profité de la nuit pour revenir et accoster à nouveau, déverse ses occupants sur le rivage. En quelques minutes, l'armée des Grecs pénètre dans Troie et envahit la cité qu'elle cherchait à conquérir depuis bientôt 10 ans. En quelques minutes, des hurlements déchirent l'obscurité. Une longue nuit de pillage et de meurtre commence. Les Troyens, saisis par ruse dans leur sommeil, ne se défendent même pas. Réfugiée dans le temple d'Athéna, une femme pleure pour la deuxième fois sa cité à feu et à sang. Elle a déjà tout vu, tout vécu, tout raconté, et personne ne l'a cru. Cassandre, la prophétesse, pousse un hurlement de bête blessée, tandis qu'on la jette parmi les autres Troyennes désormais captives d'Agamemnon. Lorsqu'il a bondi des entrailles du cheval, Ménélas a couru droit au palais. Une lumière veille. Il a surgi dans la chambre d'Hélène, l'épée dégainée, prêt à lui plonger sa lame dans le cœur. En la regardant, elle, la plus belle femme du monde, si droite, si fière, Ménélas a senti sa colère fondre. Il a jeté son épée au sol. La guerre de Troie est finie. Ulysse devrait être heureux. Sa ruse a réussi. Les Grecs ont gagné. Pourtant, une main de fer lui broie le cœur. Il s'était juré que les Troyens qui se rendraient auraient la vie sauve, mais les lois de la guerre l'ont emporté. Et c'est à nouveau un massacre qui a lieu. La victoire a un goût de cendre. Ulysse regarde le jour se lever sur les ruines fumantes de Troie. Il est bien vivant, mais l'oracle, qui lui avait annoncé encore 10 ans d'errance avant de retrouver Ithaque, avait-il dit vrai? Ébloui par les éclats du soleil qui joue avec les vagues, Ulysse a du mal à discerner les 12 bateaux de sa flotte. Il a pourtant envie de les compter et de les recompter, ces 12 navires qui viennent d'embarquer ses hommes pour rentrer au pays. Il est fier de les ramener chez eux. Il se sent soulagé. Soulagé et enfin libre. Derrière lui, une voix toujours la même murmure à son oreille. « Homme libre, il t'appartient de veiller à ramener tes hommes chez eux, en leur rendant le désir de leur patrie. » Ulysse n'a pas besoin de se retourner. Il sait qu'Oumariaka n'est plus à ses côtés, mais qu'elle continue à veiller sur lui. C'est ainsi. Lorsque l'heure du départ a sonné, il est venu la saluer, le cœur triste. Elle lui a simplement dit « Ne pleure pas. Tu ne me verras plus, mais ma voix sera éternellement au creux de ton oreille. » Même si nombre des compagnons d'Ulysse ont perdu la vie durant ces années de guerre, il lui reste plus de 500 soldats vivants. Des hommes qui ont appris à se battre, mais qui ont aussi pris goût au sang et au pillage. La voix d'Oumariaka complète sa pensée. Tes hommes ne sont pour l'heure habités que par la guerre. C'est un mal qui ronge le cœur en profondeur. Ulysse sait trop bien à quel point Oumariaka a raison. Ces hommes sauront-ils reprendre le cours paisible de leur vie après une telle boucherie? Avant la guerre, ils n'aspiraient qu'à cultiver leurs champs, pour les uns, à pêcher leurs poissons pour les autres. Comment déposeront-ils les armes à présent? Comment accueilleront-ils à nouveau la paix dans leur cœur? Ulysse se promet d'être vigilant. Au cours de la première halte, Ulysse se laisse pourtant surprendre par ce goût du meurtre qui hante désormais ses hommes. Ils ont jeté l'ancre sur les côtes d'une terre habitée par un peuple qui s'appelle les Sicones. Avant même qu'Ulysse s'en aperçoive, une partie des troupes a semé la terreur dans la ville où ils viennent d'arriver. « Ne tuez plus! Prenez seulement la nourriture et repartons au bateau !» La voix d'Ulysse se perd dans les rues de la ville, couverte par les cris des mourants et le cliquetis des armes. Les hommes d'Ithaque n'ont pas envie d'écouter leur chef. Ils veulent piller pour piller. Écœuré, Ulysse regagne son bateau, emportant avec lui de quoi manger et une amphore de vin. Dans les rues de la ville, ses hommes, ivres, ronflent sous les étoiles. Mais la nouvelle que les soldats, au retour de la guerre, sont venus tout piller, s'est répandue sur cette île. Des Sicones accourent en pleine nuit des villages voisins. Ils n'ont aucun mal à prendre par surprise les hommes endormis et un nouveau massacre commence. En hâte, les hommes d'Ithaque se replient sur leurs bateaux et mettent les voiles. Chaque navire a perdu au moins 6 membres d'équipage, plus de 70 morts encore. Fuir, fuir, fuir encore, fuir toujours, mais quand cela s'arrêtera-t-il? Le lendemain, Ulysse se répète doucement, un à un, le nom de ses compagnons morts. Parmi les survivants, certains pleurent, d'autres dorment. Les voiles blanches font avancer les bateaux. « Je serai plus vigilant, je ne vais plus me laisser surprendre », se promet Ulysse. Mais voilà que le vent se met à souffler de plus en plus fort. C'est Borée, le terrible vent du nord. Le ciel s'obscurcit. Les vagues grossissent. Maintenant tous les hommes sont réveillés. La tempête est sur eux. Les bateaux se retrouvent ballottés sur ces flots déchaînés. On dirait que chaque vague va les engloutir. Le vent hurle aux oreilles. Il s'engouffre dans les voiles. Il les fait claquer. Les bateaux dansent sur les vagues comme de petits jouets et plus personne ne peut tenir le gouvernail. Cela dure depuis des heures. Les navires ont été emportés loin de leur route. Le vent enfle encore, encore, et maintenant les voiles se déchirent. « Tous aux rames !» hurle Ulysse. Les hommes tremblent de peur, ils se jettent sur les rames et essaient de regagner un rivage n'importe lequel, pourvu qu'ils puissent poser un pied sur la terre ferme. Chacun est persuadé qu'il va mourir, englouti par cet océan déchaîné. Impossible de dormir. Il faut éviter les récifs pointus. Il faut tenter de ne pas laisser la mer submerger les bateaux. Les vagues sont parfois hautes comme des montagnes. Et pas une côte, pas une terre en vue. Pourquoi la mer veut-elle ainsi les engloutir? La colère de Boré, le terrible vent du nord, dure 9 jours et 9 nuits. Et pendant 9 jours et 9 nuits, les hommes sont aux mains de la mer démontée. À l'aube du 10e jour, une île surgit à l'horizon. Les compagnons d'Ulysse reprennent espoir et rament avec fougue dans sa direction. Enfin, ils parviennent à l'atteindre. Ils tirent les bateaux sur la plage, à l'abri de la tempête, et, tandis que l'on partage les dernières vivres, les dernières gorgées d'eau, 3 hommes sont envoyés en reconnaissance dans l'île. « Tâchez d'apprendre à quoi ressemblent les gens de ce pays !» leur crie Ulysse. « Et revenez vite, me raconter !» Mais sa voix se perd dans le vent. Les 3 hommes d'équipage se sont déjà enfoncés dans la forêt. Commence alors une curieuse attente. Un jour entier passe, puis 2, puis 3. Les hommes restés sur les navires s'impatientent. Ils veulent reprendre la mer. Ulysse est inquiet. Quelque chose a dû arriver à ceux qu'il a envoyés en éclaireur. À l'aube du 4e jour, il décide de partir à la recherche des 3 disparus, accompagné par une petite escorte. À peine 1 heure de marche dans cette luxuriante forêt et ils arrivent dans un village. Les hommes, les femmes, les enfants qui viennent à leur rencontre sont souriants, les mains tendues vers eux en signe d'accueil. Leurs yeux brillent de joie devant les nouveaux venus. Ulysse est sous le charme. Tout autour d'eux poussent des fruits magnifiques, couleur de soleil, qui s'offrent en lourdes grappes. Il n'y a qu'à se servir. Les villageois en ont cueilli et les offrent aux étrangers en répétant doucement « Lotos, Lotos ». Mais Ulysse n'a pas oublié que ses hommes ont disparu. « N'y touche pas !» crie-t-il à l'un de ses compagnons qui s'apprête à mordre à belles dents dans le fruit doré. « Allons, regarde, Ulysse, ils en dévorent eux-mêmes sous nos yeux, » lui répondit-il. « Et comme ce fruit semble bon !» Et c'est alors qu'une voix derrière eux s'exclame. « Ah oui, ils sont absolument délicieux, un goût de miel qui coule dans la gorge. C'est comme si un soleil bienfaisant entrait dans votre bouche et rayonnait dans votre tête. » Ulysse sursaute. Celui qui vient de parler ainsi dans leur propre langue est l'un des 3 hommes envoyés en éclaireur. Il est mollement couché sur une natte, un sourire bien heureux sur le visage. Le même sourire que les gens du village, remarque aussitôt Ulysse. À ses côtés, les 2 autres hommes d'équipage sont également étendus et mangent goulûment du fruit jaune. « J'étais inquiet de votre sort, » dit doucement Ulysse. « Me voici soulagé de vous retrouver sain et sauf. Allez, venez vite, partons maintenant. Vos amis s'impatientent, la tempête s'est calmée et ils veulent repartir. » Mais les 3 jeunes hommes continuent à sourire, sans bouger. « Partir? Mais pour aller où ?» répond le premier. « Quels amis nous attendent ?» dit le deuxième. Tandis que le 3e, la bouche pleine de lotos, murmure. « S'impatiente, s'impatiente, mais pourquoi ?» L'étonnement d'Ulysse est total lorsqu'il s'exclame. « Mais vos femmes et vos enfants attendent votre retour à Ithaque. Et les hommes sur les bateaux vous attendent pour que nous puissions tous rentrer ensemble chez nous. » Les 3 hommes se regardent. Ils ont l'air de ne pas comprendre de quoi Ulysse parle. « Vous avez oublié vos familles et notre île ?» crie Ulysse. Ne crie pas, doux capitaine. Les lotophages sont tellement charmants. Nous sommes si bien ici, si heureux, si tranquilles, disent-ils en souriant toujours. Comme ils ont le visage paisible, se dit Ulysse en observant ces hommes se gaver de lotos. Ainsi voilà l'effet de cette fameuse plante de l'oubli dont j'ai déjà entendu parler. Elle a tout effacé en eux. La guerre et ses horreurs, l'absence et ses douleurs, la peur et ses terreurs. Pas de souvenirs, pas de malheur, pas de remords et pas de nostalgie. Les hommes de son escorte tremblent de convoitise. Ils envient leurs trois camarades partis dans un monde sans mémoire. Ils n'ont plus qu'un désir, mordre eux aussi dans le fruit de l'oubli et disparaître à jamais. Ils lisent dans les yeux de leur chef la même furieuse envie. Tout oublié, pour toujours. Ulysse va-t-il succomber à cette terrible tentation ?